Cette histoire de l'Évangile fait partie de ces histoires qui nous travaillent, qui nous incommodent, comme bien d'autres histoires de l'Évangile. Je pense par exemple à cette parole de Jésus qui dit « Celui qui ne me préfère pas à son père ou à sa mère ne peut pas me suivre » ou « Il faut porter sa croix » ou « Je suis venu apporter l'épée et non la paix ». Et là, à nouveau, si tu regardes en arrière, tu es inutile pour l'Évangile. Beaucoup de phrases qui nous interpellent et qui nous interpellent sur notre façon de les entendre aujourd'hui, qui soulignent peut-être un paradoxe entre la façon dont nous sommes obligés de recevoir ces phrases et la façon dont nous les vivons. Si on devait donner un titre à ce passage, je l'appellerais bien « Jésus le vagabond ». Parce qu'il y a quelque chose de romanesque derrière ce passage, il y a quelque chose d'important. Ce vagabond figure ô combien inspirante encore aujourd'hui dans tout l'univers de la narration, des histoires ou des films. Il n'y a pas longtemps encore, je regardais ce film américain, super production avec Tom Cruise, Jack Reacher, qui justement mettait en scène un vagabond justicier qui montrait comment finalement s'il était capable d'être justicier, c'est parce qu'il n'avait aucune attache, qu'il avait accepté d'être complètement libre en étant un vagabond sur cette terre. Ce type de vagabond, Jésus, il le remplit évidemment d'une bien autre façon. Effectivement, il est ce super-héros justicier, mais qui impose sa justice, nous le savons comment, en s'offrant plutôt qu'en la rétribuant de manière forte. Le personnage de vagabond, je le vois aussi à travers cette chanson de Brel, « Pourvu qu'il nous vienne un homme aux portes de la cité ». Cette aspiration profonde qu'il y ait quelqu'un, un héros qui vienne et qui vienne rendre justice parce qu'il n'aurait aucune attache sur cette terre, parce qu'il serait complètement libre de Dieu, libre des hommes et attaché seulement à Dieu. Et cet homme-là, c'est Jésus. Jésus, il a une quête, comme une fatalité. Le texte commence en nous disant « Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. » La voici, sa quête. Et la voici, son envie directe. Il doit être enlevé. Il prend la décision de faire face et d'y aller. Alors viennent les épreuves. Il y a l'épreuve de Jérusalem que nous connaissons tous. Nous savons comment cette histoire se finit. Mais il y a aussi l'épreuve de la Samarie. Il est en marche. Ses disciples vont ouvrir la voie pour lui. Et puisqu'il marche vers Jérusalem, la Samarie ne le reçoit pas. Là, à nouveau, il est rejeté. Il n'est apprécié ni à Jérusalem, ni à la Samarie. Il est ce vagabond qui n'a pas été reçu par la terre. Dans ces épreuves, il y a des compagnons d'épreuves. On entend Jacques et Jean qui, eux, se croient peut-être plus dans un film d'action. « Veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour le détruire ?» On les entend presque ordonner à des drones de venir envoyer des missiles sur ce village. Et Jésus les rabroue. Alors, c'est intéressant de noter là qu'il y a dans les parchemins une petite dispute. Certains parchemins se sont sentis obligés de rajouter cette phrase de Jésus « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes ». Mais pour les sauver. Une façon d'expliquer pourquoi est-ce que Jésus ne dit rien. Juste, il leur dit non. Ce n'est pas comme ça que je suis venu sur cette terre. Et ils allèrent dans un autre village. Si les disciples ne sont pas mis en avant, le texte souligne maintenant le paradoxe du disciple, qui est aujourd'hui notre paradoxe. Celui qui dit « Je te suivrai partout où tu iras », une phrase qu'on a peut-être tous prononcée ou du moins tous voulu dire dans notre prière à Dieu, à Jésus. « Je te suivrai partout où tu iras, partout où tu m'enverras. » Et la réponse de Jésus, elle est celle du vagabond. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Comment suivre un vagabond ? Nous sommes touchés par Jésus et nous voulons le suivre. Et à la fois, cette parole nous dit un petit peu trop, laisse tout derrière et suis-moi. Jésus continue en disant lui-même à un disciple, suis-moi. Ce suis-moi qu'on a peut-être nous aussi entendu dans notre vie, qu'on a entendu dans notre lecture de la Bible, qu'on a pu entendre à un culte, qu'on a pu entendre comme une puissante intuition, qu'on a pu entendre dans notre prière ou par un ami. Ce suis-moi qu'on a pu entendre en constatant simplement l'évidence que le Christ était effectivement la bonne nouvelle pour ce monde, le chemin qui permet une vraie paix, le chemin qui rapproche de Dieu, le chemin de la justice. Suis-moi. Et l'homme répond comme nous répondons souvent, nous aussi. Je dois d'abord aller ensevelir mon père. Ou un autre dit, laisse-moi juste le temps d'aller dire au revoir à mes proches. Pour Jésus, ces phrases ne sont pas valables. Pourtant, ô combien nous pouvons les dire honorables ? Quel chrétien n'irait pas enterrer son père ? Quel chrétien ne dirait pas au revoir à ses proches avant de partir, même pour la plus noble des quêtes ? Laisse les morts ensevelir les morts et va-t'en annoncer le règne de Dieu. Ou quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Des phrases cinglantes de Jésus. Des phrases d'un vagabond qui nous invite à tout quitter pour le suivre. Alors, on pourrait dire que ces phrases, elles s'adressent à des disciples. Elles sont historiques, c'est le moment où Jésus sait qu'il va avoir besoin de personne pour continuer son œuvre. Une fois que lui sera parti, une fois que lui sera enlevé, il faut que des gens reprennent cette mission. Et nous pouvons dire aujourd'hui merci, merci à Pierre, merci à Paul, merci à Jacques, Jean, André, Thomas, tous les disciples, d'avoir été vraiment ces personnes qui ont tout laissé derrière, qui ont accepté d'être vagabonds à leur tour, prenant seulement un bâton et leurs sandales, allant sur les routes pour faire croître et naître cette Église, pour annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde, pour l'annoncer en Europe. Nous sommes héritiers de toute cette démarche, héritiers de ceux qui ont écouté cette parole pour de vrai. Et puis, les temps ont changé et ces phrases de la Bible ont été interprétées à chaque fois de façon différente en fonction des temps. Doit-on aujourd'hui interpréter de la même façon ces paroles qui étaient d'une radicalité extrême parce que nécessairement elles devaient créer l'Église, nécessairement il y avait besoin d'hommes qui quittent tout pour porter cette Église. Aujourd'hui, nous avons perdu cette habitude. Nous sommes effectivement, encore et toujours, j'ai l'impression de le dire souvent, mais effectivement le fait que nous venons d'une société chrétienne a beaucoup changé notre façon de lire la Bible. Et nous nous efforçons de comprendre, de contextualiser ces paroles pour les prendre, les comprendre autrement. Osons nous mettre devant ces paroles avec humilité et nous dire qu'est-ce qu'elles nous appellent vraiment. Est-ce que cet appel est réservé à des disciples il y a 2000 ans? Est-ce que cet appel est réservé à des évangélistes aux quatre coins du monde, à un endroit où le christianisme n'existe pas? Est-ce que cet appel s'adresse aussi à nous, chrétiens du 21e siècle de la Chaux-de-Fonds? Je crois que si nous décidons de prendre cette phrase, cela est bien dur. Cela est même impossible. Et c'est là notre paradoxe. Pour le combler, nous invoquons nos responsabilités humaines. Par exemple, effectivement, moi je suis père de famille. Et tous ces engagements d'être pasteur sont très vrais, sont très justes. C'est là mon ministère profond, mais il y a peut-être ce ministère qui vient avant, celui d'être père de famille, qui m'oblige, je le crois, à offrir à mes enfants un lieu stable pour grandir, un lieu stable pour apprendre à faire confiance à Dieu, un lieu stable où ils puissent eux-mêmes s'épanouir. Un engagement qu'on a peut-être chacun à sa façon, en étant père, mère, grand-parent, ou tout simplement en ayant des amis, en ayant à l'œuvre dans notre société, en étant à l'œuvre dans notre métier. Tous ces engagements qui font que nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, sans même dire au revoir, partir sur la route comme ça à la suite du Christ, parce qu'on discernerait là son appel. Il y a effectivement des gens qui sont partis. La pasteur qui a célébré mon mariage s'appelait Yusra Ueradia. Elle était un exemple pour moi. Et elle a eu toute cette période de sa vie où elle disait qu'elle vivait par la grâce. Ça veut dire qu'elle est partie sans en avoir les moyens. Elle était célibataire. Elle est partie aller vivre de la parole de Dieu en Israël, aller l'annoncer à ceux qui voulaient bien entendre cette parole de Dieu. Elle était elle-même d'origine berbère et musulmane, convertie, devenue pasteur. Et elle a vécu de ce miracle permanent, de ce Dieu qui prend soin, de ce Dieu qui tient sa promesse lorsqu'il dit « Cherchez le royaume de Dieu, moi je sais ce dont vous avez besoin et je m'en occupe. » Elle a vécu toutes sortes de petits miracles au cours de sa vie. Elle a aussi témoigné que cela était épuisant. Épuisant parce que c'était dur de se savoir dans cet inconfort. Inconfort de ne pas savoir ce que Dieu allait faire, ce que Dieu voulait d'elle, de ne pas savoir de quoi serait fait demain. Cet inconfort de ne pas pouvoir maîtriser peut-être sa vie. Cet inconfort de tout donner, mais de ne rien contrôler et de ne pas voir ce futur. Alors bien sûr, il est vécu dans la confiance, mais cette confiance sur le long terme est difficile à vivre. Et d'elle-même, finalement, elle a fini par revenir en France pour vivre une vie peut-être plus facile, parce qu'elle en avait besoin. Ces phrases montrent peut-être combien est dur l'appel de Jésus, combien est dure la mission qu'il nous donne. Et il serait bien naïf de dire simplement du haut de cette chair, eh bien, laissons tout derrière et allons suivre Jésus. Non, effectivement, c'est plus dur que ça. Ce texte adresse un défi à nos vies. Un défi qui nous dit, ne cherchez pas la religion du bon, du convenable, de dire au revoir, d'ensevelir, mais cherchez la religion de l'appel. Cherchez la foi, cherchez l'amour, cherchez là où moi je vous envoie. Effectivement, nous sommes l'Église réformée. Nous ne sommes pas connus pour être l'Église la plus brûlante. Et pourtant, je crois, nous avons une foi sincère, une foi bien ancrée, une foi qui nous veut à la suite de Jésus. Et peut-être nous avons tous peur de suivre ce Jésus jusqu'au bout. Mais en tant que pasteur, en tant que chrétien, voici la parole que je voudrais dire. Ces textes nous invitent toujours à aller plus loin. Et nous ne pouvons pas, pour notre confort, nous contenter de les contextualiser, nous contenter de les remettre dans leur place ou d'essayer de les comprendre de façon qui nous convienne. Ces textes nous bousculent et nous avons besoin d'être bousculés. Nous sommes humains, terriblement humains, indignes du royaume de Dieu. Je le crois, comme le dit Jésus, et pourtant je le crois accepté avec nos faiblesses pour vivre de ce royaume et pour répandre sa justice. Interpellé par ce message, je nous invite chacune, chacun à oser relire et entendre cet appel, ce « Suis-moi » de Jésus. Ce « Suis-moi » d'un vagabond qui traverse le monde sans aucune attache et qui est libre d'enseigner l'Évangile, parce qu'il ne dépend pas des contraintes de ce monde. Par contre, ce « Suis-moi », il me fait parfois peur quand je vois certaines personnes qui ont ce zèle ardent, peut-être pas tant pour Dieu que pour la religion. Ce zèle ardent pour appliquer quelque chose, pour dire « Oui, ce qui sauvera, c'est le christianisme ». Appliquons-le à la lettre comme si le christianisme était une loi. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on puisse entendre ces mots de l'apôtre Paul avant les mots de Jésus. Ces mots de Paul qui dit que c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. C'est là effectivement une parole de vagabond qui nous rend libres, libres de ce monde, libres des attaches. Et Paul nous invite à ne pas retomber sous le sceau de l'esclavage. Pour Paul, cet esclavage, c'est celui de la circoncision, c'est celui de la religion comme d'une loi. Pour nous, cet esclavage, ça pourrait être celui de la religiosité, celui qui dirait « Oui, effectivement, il faut que je lise mes 10 chapitres de la Bible par jour, que je fasse ma prière tous les matins, tous les soirs, que j'aille à tous les cultes pour que cette église aille mieux. » Non, ce n'est pas ça profondément à laquelle Dieu nous invite. Dieu nous invite à être à l'écoute de ce « suis-moi », à aller vers notre prochain, et comme le dit l'Épître aux Galates, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi, la justice espérée. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. L'appel de Dieu, ce n'est pas d'être dans l'application la plus rigoureuse d'une loi, mais au contraire de vivre pleinement la foi, celle qui fait que nos actes sont justes parce que remplis d'amour. Alors à ce moment-là, oui, nous pouvons entendre ce « suis-moi » et aller jusqu'au bout, le plus loin, selon ce que nous sommes nous-mêmes prêts à laisser derrière nous, selon les liens que nous sommes nous-mêmes prêts à laisser rompre pour vivre de cette foi dans ce monde. Ne devenons pas des religieux, mais devenons des vagabonds, c'est-à-dire des hommes libres, libres pour prêcher le royaume de Dieu. Notre appel, c'est d'avoir une foi pleine d'amour. Dieu nous appelle toujours plus loin, mais plus loin dans la liberté, pour l'amour. Amen.